Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. L'émotion est une certaine façon d'appréhender le monde, écrivait Jean-Paul Sartre. Et du matin au soir, nous sommes soumis à un tourbillon d'émotions, la joie de serrer son enfant dans les bras, l'humiliation subie au bureau après une remarque désobligeante, la tristesse de ne plus voir une amie, la colère après avoir été bousculé, son ménagement dans le bus, le dégoût de soi pour avoir été lâche, l'enthousiasme pendant un dîner entre amis, la nostalgie après des vacances dans une maison d'enfance. Des émotions qui se déclenchent malgré nous et qui s'invitent dans notre corps et dans notre esprit, qui nous font réagir, réfléchir, réagir. Mais comment trouver la juste mesure dans l'accueil de nos émotions? Comment régler au mieux le thermostat? Comment ne pas réagir à tort et à travers? A-t-on raison de les réprimer? De quelle façon influencent-elles nos vies? Éléments de réponse en compagnie de nos experts. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Que faire de nos émotions pour répondre à cette question? Ilios Kotsou, bonjour.
Bonjour.
Docteur en psychologie, chercheur à la Grenoble École de Management. Vous avez notamment publié parmi vos nombreux livres Les compétences émotionnelles chez Duno. Bonjour Christophe Hag.
Bonjour Ali.
Chercheur en psychologie sociale à l'EM Lyon. Vous publiez chez Albin Michel La contagion émotionnelle. Bonjour Martin Legros.
Bonjour Ali. Ami.
Rédacteur en chef de Philosophie Magazine avec en couverture cette question Que faire de nos émotions? Ilios Kotsou, ça tombe sur vous. La première question, question vaste. Qu'est-ce qu'une émotion? Le Larousse me dit que c'est le trouble subi, l'agitation passagère causée par un sentiment de peur, de joie, de colère. C'est un peu court comme définition.
Oui, et puis on voit déjà l'idée de trouble et d'agitation, ouais, comme s'il y avait un côté négatif dans l'émotion. On peut se dire que si on revient dans l'histoire de l'humanité, nous, les hommes et les femmes, on était dans un environnement qui était souvent extrêmement hostile. Il nous fallait répondre très rapidement aux enjeux de l'environnement. Et nous voilà, on a été équipés d'un système de détection des enjeux de l'environnement qui très rapidement envoie de l'information et prépare notre corps à l'action. Donc la peur, directement, va mobiliser les muscles, va changer la tension, et donc tout le système va être en quelques instants mobilisé pour fuir, pour attaquer, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on peut dire que l'émotion, elle nous sert à quoi? Elle nous sert bien sûr à répondre aux enjeux de l'environnement, mais le problème, c'est quand elle est trop rapide et dérégulée, elle nous dessert, mais elle nous sert aussi à communiquer avec les autres. Sans émotion, pas de communication. Elle nous sert à apprendre. Sans émotion, pas d'apprentissage. Elle nous sert à savoir ce qui est important pour nous. Sans émotion, pas de boussole pour nous diriger dans la vie. Donc en fait, la question n'est pas tellement de savoir si on les aime ou pas. Elles sont essentielles à l'existence de chacun et chacune d'entre nous.
C'est d'abord un phénomène biologique.
C'est tout d'abord un phénomène biologique, et donc c'est tout d'abord un mouvement dans le corps, c'est tout d'abord une accélération du rythme cardiaque, ce sont des neurotransmetteurs dans le cerveau, mais c'est aussi un changement au niveau de la cognition, notre manière de réfléchir, et puis tout ça, c'est un sentiment subjectif qu'on va appeler émotion.
Christophe Hag, les émotions sont complexes, c'est pour ça qu'il est parfois difficile de comprendre ce qui nous arrive.
Oui, tout à fait, mais quand on part du principe que les émotions ont un rôle fonctionnel, utile pour nous adapter, ben on les accepte aussi beaucoup plus facilement. Et moi, je les compare souvent en fait à des panneaux signalétiques, comme ceux qu'on peut retrouver au bord de l'autoroute, qui vous avertissent en fait de ce qui est en train de se passer. Et dans la population, vous avez des gens qui tiennent compte de ces panneaux signalétiques, d'autres pas. Et c'est comme sur l'autoroute, quand vous avez un petit panneau qui vous dit « attention, dans 150 mètres, virage dangereux », si vous décélérez pas, ben, la probabilité de se taper la rambarde un peu plus loin, ben, elle est assez grande.
Vous parlez de signalétique, mais nous ne sommes pas toujours en capacité de comprendre nos émotions.
Alors effectivement, il y a des différences dans la population, notamment par rapport à une forme d'intelligence qu'on a appelée intelligence émotionnelle, où on voit qu'il y a des gens qui sont plus capables que les autres de les repérer, de les comprendre, leurs causes, leurs conséquences, et aussi de les réguler, c'est-à-dire de s'en détacher ou alors de les prolonger, suivant la situation.
Ilios Kotsou, sur la complexité de nos émotions, je suis censé vivre le plus beau jour de ma vie et pourtant je suis triste, je viens de me faire licencier, pourtant je ressens un soulagement.
Alors évidemment, nos émotions ne sont pas seulement liées au présent, nos émotions sont liées également au passé. Donc toute notre histoire de vie va conditionner des émotions par rapport à des contextes, par rapport à des personnes. Et donc c'est normal que notre vie intérieure est extrêmement complexe pour la plupart d'entre nous. Mais une des raisons, comme l'a dit Christophe de manière très juste, c'est que nous ne sommes pas habitués à écouter nos états d'âme. Et donc c'est un monde souvent inconnu pour nous. Et donc si nous étions plus à l'écoute de ce qui se passe en nous, nous pourrions comprendre ces panneaux signalétiques comme ça a été très joliment dit. Et donc que nos émotions nous donnent des indications émotion et qu'une émotion qui paraît être négative, comme la peur ou l'anxiété, en fait, elle nous parle de ce qui est important. Et donc, il faudra le voir différemment. Peut-être plutôt que de le voir en termes d'émotions positives ou négatives, elles sont toutes utiles et ce sont des émotions parfois agréables qui nous disent que ce que nos objectifs, nos buts et ainsi de suite, on a le sentiment qu'ils vont être atteints, qu'ils sont proches, ou désagréables qui nous parlent d'une menace peut-être tout à fait subjective. Et donc, dans ce sens-là, elles sont toutes utiles.
Guillemette Audicino.
Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, c'est étrange parce que à la fois, il y a beaucoup d'émotions qui sont louées, etc. Mais il y a aussi de plus en plus un recul, une peur de vivre ces émotions ou de les écouter. Il faut être fort aujourd'hui. Donc, par exemple, il faut pas pleurer, il faut pas être troublé, il faut pas. Est-ce qu'il y a pas une espèce de plus en plus de trouille d'exprimer ces émotions aujourd'hui parce qu'on paraît, disons, fragile?
Alors vous permettez, ça doit être vrai dans certains milieux, moi je dirais le contraire. Je dirais qu'aujourd'hui...
Dans les sociétés aujourd'hui par exemple...
Je pense que la société aujourd'hui n'a jamais été aussi ouverte...
Dans le milieu professionnel...
Je pense que ça n'a jamais été aussi ouvert aux émotions et qu'on manque beaucoup de données pour comparer maintenant à une génération. Mais je vais prendre un exemple anecdotique. Vous voyez aujourd'hui des papas avec leur bébé en kangourou, mais pensez aux générations d'avant. Le père ne se comportait pas comme ça et donc cette...
N'aurait jamais osé, oui.
Voilà, l'acceptation de la fragilité et du fait d'exprimer de la tristesse et ainsi de suite est beaucoup plus présente, me semble-t-il, aujourd'hui que dans les générations passées. Alors, évidemment, ça dépend toujours comment, par quel côté de la lunette on regarde.
Oui, et puis aussi, on a voilà, la métrosexualité. On voit que même d'un point de vue hormonal, les deux genres en fait, sont en train de se rapprocher. Les hommes sécrètent beaucoup moins de testostérone qu'il y a quelques années. Donc moi, je crois qu'il y a une sensibilité qui est un peu plus forte. Moi, je suis le papa de deux enfants, 3 à 6 ans. Bah ouais, je leur consacre pas mal de temps. Peut-être un peu moins que mon père à l'époque. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, on a un examen de conscience à faire. On fait un examen de conscience aujourd'hui sur notre empreinte carbone. Je pense qu'on devrait être aussi responsable de l'empreinte émotionnelle qu'on va laisser. Et c'est pour ça que moi j'ai écrit ce bouquin. C'est pour dire aussi, est-ce qu'aujourd'hui on veut être pourvoyeur d'émotions toxiques ou d'émotions bénéfiques? En gros, est-ce qu'on veut faire du bien ou du mal à autrui et par effet miroir à soi-même? Donc je crois que la question aujourd'hui, elle est là et je pense que beaucoup de gens se la posent.
Martin Le Gros, pourquoi cette question à la une de Philosophie Magazine, que faire de nos émotions?
Oui, on s'est posé cette question parce que c'est vrai qu'en philosophie, les émotions n'ont jamais eu un statut très très noble et légitime. La philosophie s'est longtemps méfiée des émotions, comme c'est ce qui trouble l'impassibilité du sage. Le sage est celui qui doit prendre distance par rapport à ses émotions. Et par ailleurs, il y a en philosophie, il y a eu longtemps une sorte d'hésitation entre. On n'a pas théorisé les émotions. On parlait les classiques parlaient des passions, comme ce qui vous emporte en dehors du règne de la raison, et les modernes parlent des sentiments, qui est un régime beaucoup plus intérieur et intellectuel déjà. Or, les émotions, c'était quelque chose d'intermédiaire. C'est sans doute le langage dont on parle, avec lequel qu'on utilise depuis 10 minutes, est celui qu'on a hérité directement de Charles Darwin, en réalité, qui est le premier à avoir vraiment théorisé la question des émotions à travers ce grand texte, l'expression des émotions chez l'homme et chez l'animal, où il montre que les émotions sont un langage qui permet de nous faire comprendre très très rapidement. Si vous êtes, surgit un danger dans ce studio, eh bien, je vais voir à votre visage, avant que vous me parliez, qu'il y a un danger. Donc, les émotions sont un langage universel, manifestement, défend Darwin, et ce sont des choses qui ont été révélées par des études ethnologiques. Oui, il y a une différenciation des langages émotionnels selon les cultures, mais nous comprenons immédiatement quasiment les 6 émotions de base dont vous avez quasiment, que vous avez listées en ouverture de cette émission. Ce que je voudrais juste apporter comme nuance, peut-être que la philosophie peut apporter, c'est que par rapport à Darwin et à la science, c'est que l'émotion, c'est pas seulement une compétence, c'est pas quelque chose uniquement qui est utile pour comprendre le monde et le déchiffrer, c'est d'abord et avant tout, je crois, quelque chose qui nous met en relation avec le monde et avec les autres. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser ces émotions comme d'une compétence et de décider « Ah, moi, dorénavant, je ne serai plus toxique avec mes émotions ». Les émotions, c'est des choses qui sont à la fois... tout notre corps est mu par cela, mais notre corps nous met en relation avec le monde. Ce matin, je venais à ce studio, je voyais le soleil qui se réfléchir sur le miroir de la scène, et tout d'un coup, c'est pas uniquement mon émotion intérieure qui était en jeu, c'est le monde qui se révélait, qui se découvrait à travers cette émotion. Et je dirais que le danger du langage, de la fonctionnalité, de l'utilité, c'est de réduire des émotions à des compétences, à des choses utiles, alors qu'elles sont d'abord ce qui nous met en relation avec les autres et avec le monde.
Christophe Hague.
Se mettre en relation avec les autres, il y a déjà une forme d'utilité aussi. C'est-à-dire que ça permet de créer du groupe, ça permet aussi d'avoir une espèce d'une unité sociale qui nous permet de survivre, qui nous a permis aussi d'être un petit peu au-dessus d'autres espèces. Alors pour le bien et pour le moins bien. Après, l'émotion, je dirais que, et là où je vous rejoins, moi je l'appelle d'ailleurs la particule de Dieu, alors sans aucune vraie connotation religieuse, mais pour moi c'est vraiment aussi quelque chose qui va animer en fait nos corps robotiques, mécaniques, qui va donner du relief à nos vies. Et je pense que sans émotion, effectivement, il n'y a pas de relation à l'autre, et il n'y a peut-être pas de relation à soi-même non plus. Et en dernier lieu, mettez deux personnes dans une salle, il leur faut à peine 21 millièmes de seconde, finalement, pour qu'ils synchronisent et leur corps et leurs émotions. Alors 21, il y a toute une symbolique autour de tout ça, mais c'est le temps de projection d'une image au cinéma. Donc on est tous transmetteurs et récepteurs, finalement, d'émotions. Donc ce lien, il se crée comme ça à l'émotion. Mais pour moi, je trouve qu'il y a une forme aussi de fonctionnalité là-dedans, c'est comme ça qu'on n'est pas rejeté, qu'on n'est pas ostracisé, etc., et qu'on trouve du soutien, etc.
21, multiple de 7, 7 chiffres sacrés, Guillemette Odissino.
Ce que j'entends, enfin, à la fois dans ce que vous dites, Martin, et vous, c'est l'émotion, elle est irrépressible tout de même. Enfin, elle est difficilement, c'est difficile de la sculpter, de la guider, de la maîtriser, parce qu'elle est irrépressible. Par exemple, je connaissais quelqu'un qui pleurait très facilement dès qu'il y avait un petit conflit et qui disait c'est pas de ma faute, les larmes viennent toutes seules. Alors que cette personne aurait bien aimé ne pas avoir l'air, disons, larmoyant dans une conversation, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher.
Il y a ce qu'au-dessous.
Alors, je dirais que je pense pas qu'il faille opposer psycho et philo là-dedans, mais si on parle de constats très très concrets, à l'horizon 2030, les problèmes d'émotion seront la première cause d'invalidité dans le monde entier. On peut voir à quel point nos émotions, lorsqu'elles sont dysfonctionnelles, et donc je me suis trompé, lorsque nos relations à l'émotion sont dysfonctionnelles, ce à quoi ça peut nous mener en termes de santé personnelle et collective. Regardons la manière dont c'est manipulé, on traite parfois les réfugiés et ainsi de suite. Et donc il y a quand même un enjeu important individuel mais aussi social dans la manière d'être en lien avec les émotions. Et la question, je pense ici, c'est pas de savoir si on va les gérer ou les réprimer, c'est tout le contraire, c'est quelle relation, comme vous l'avez dit, avons-nous avec nos propres émotions? Est-ce que nous avons une relation amicale? Est-ce que nous pouvons les comprendre, les apprivoiser et faire que l'émotion soit une information qui éclaire notre vie? Ou allons-nous être l'esclave d'émotions qui peuvent être manipulées par notre passé ou par les autres et qui va nous mener à avoir des comportements individuels et collectifs qui sont mauvais tout simplement? Et quand je dis mauvais, il n'y a pas de morale là-dedans. Je crois que planter le couteau dans le ventre de quelqu'un ou stigmatiser des personnes qui traversent l'océan en essayant de trouver une vie meilleure, j'ai pas l'impression que quelqu'un parmi nous penserait que ce soit des comportements qui soient utiles à la société.
Claire Destacan, Clara Mario et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Je lui souhaite un bon anniversaire, c'est demain, mais bon anniversaire Stéphanie. On écoute un titre de 1969, cette année-là naissait l'acteur Javier Bardem et disparaissait l'actrice Sharon Tate. Belle journée à l'écoute de France Inter.
I know you don't know what I'm going. Standing here, looking at you. You've been making out okay. He's in love, don't stand in his way. But let me tell you that it hurts so bad. It makes me feel so bad. It's gonna hurt so bad. Up to you, stay. I'll do anything you want me to. You loved me before, please love me again. I can't let you go back to her. Please don't go, please don't go. Oh, don't go now, baby. You know it hurts so bad.
Ah non, ça va pas recommencer. Minuterie.
France Inter.
Minuterie.
Grand bien vous fasse.
Si vous pensez me faire peur, c'est complètement idiot. Alors allumez la lumière.
Ali Rebi.
Que faire de nos émotions? On tente de répondre à cette vaste question avec le docteur en psychologie et chercheur Ilios Kotsou, le chercheur en psychologie sociale Christophe Hague et avec le journaliste Martin Legros de Philosophie Magazine.
Bienvenue dans le jeu des émotions. Ça peut être joie ou tristesse.
Tristesse. Joie? Qu'est-ce que tu fais?
Rien. Attendez tout.
Je danse, je bois, je...
Allez-y, mon loup, avec la joie.
C'est quand la dernière fois que j'ai bu?
Je sais pas, je m'en souviens plus.
Ah bah moi non.
Ma biche, je suis seul, je suis trop seul.
Vous êtes amoureux.
Tu m'aimes?
D'abord, c'est j'aime ta peau ou...
Contrôlez vos émotions.
Moi, c'est ça qui me passionne dans la vie.
Disciplinez votre esprit.
C'est des choses inexplicables.
Ah oui,
qu'est-ce que c'est?
C'est la respiration d'un animal.
J'ai eu peur, voilà.
Craignez rien, mon petit. Je suis là.
Non, c'est de vous dont j'ai peur.
Moi, je suis de Marseille, je conduis mieux que toi.
Je sais pas pourquoi il y a des gens qui vivent plus ou moins dans l'indignation, dans la colère. Moi, je vis plus ou moins dans l'indignation. Et ça ne s'arrange pas.
Non, foutez ma jambe.
Et quand on n'est pas en colère, c'est qu'on est tout seul.
Pourquoi t'as l'air triste?
Alors, on me rejette. On a honte de moi. On m'exile comme un lépreux.
T'es content? Oui, mais oui. Oui,
heureux.
You know what? I'm happy.
Montage signé Claire Destacan. Ilios Kotsou, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie. Comment ça survient une émotion? C'est-à-dire, je discute avec un ami, le ton monte, je suis submergé par la colère. Est-ce que, par exemple, ma volonté aurait pu empêcher cette colère de surgir? Comment ça vient une émotion?
C'est très peu probable. Alors, il y a les deux grands. C'est un grand débat dans la science sur ce qu'on appelle les deux routes de l'émotion. Alors, William James nous aurait dit que c'est d'abord le corps qui bouge, donc l'émotion est d'abord quelque chose de corporel et puis la cognition vient après. Alors que certains cognitifs aurait dit qu'on évalue une situation, mais en réalité, si on est pragmatique, l'émotion va arriver tellement rapidement, en quelques millièmes de seconde, que penser qu'on aurait pu la contrôler, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça amènerait d'ailleurs aux gens à essayer de réprimer les émotions, qui, on sait, est une des deux grandes erreurs. Les deux sont, ou alors ruminer, c'est-à-dire c'est une inflammation chronique de l'émotion, ou alors la réprimer, ce qui ne fonctionne pas. Et la question n'est pas tellement de savoir si j'aurais pu contrôler mon émotion, la question est de savoir qu'est-ce que je fais une fois qu'elle est là, et si je peux la comprendre, c'est-à-dire si je suis habitué à se dire, tiens, la colère est là, comment je peux contrôler mes comportements? Et ça me semble essentiel. Pour les enfants, par exemple, l'idée n'est pas de leur apprendre à contrôler les sentiments, non, de les reconnaître. Mais par contre, contrôler nos comportements est essentiel pour vivre en société. Et donc la question à nouveau est qu'est-ce que je fais de ce qui m'anime une fois que c'est là?
Qu'est-ce qu'on peut dire à Genia qui nous envoie un message sur notre page Facebook? J'ai du mal à exprimer mes émotions profondes. Je sens que ce n'est pas bien pour mon corps, mon bien-être. Et comme beaucoup, je ravale mes larmes, mes peurs et mes colères pour ne pas blesser, faire souffrir l'autre ou tout simplement pour ne pas pleurer. Je suis une grande émotive. Christophe Hague, vous venez de publier La contagion émotionnelle.
Oui, alors je vais prendre cette image. Alors, on a les références qu'on a, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre ou de ce film Jurassic Park, mm-hmm. Et vous aviez un mathématicien célèbre, fictif, qui avait cette réplique. Alors, je ne vais pas spoiler, mais ça se passe plutôt mal à la fin, mais qui dit ça au créateur du parc, lorsqu'ils veulent contrôler la vie en n'ayant que des dinosaures femelles dans le parc, il leur dit « mais vous êtes fous ». La vie, ça ne se contrôle pas, elle trouve toujours un chemin. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose pour les émotions. Si vous passez votre temps à les ensevelir sous un tas de sable, eh bien au bout d'un moment, vous allez subir en différé une sorte d'éruption volcanique psychique et qui peut être assez difficile à gérer. Là, moi, j'ai plus trop le temps en ce moment, mais fut une époque, je me rendais en Suisse et j'allais à la rencontre de personnes qui avaient vécu ce trop-plein d'émotions refoulées, qui s'est transformé en trouble dépressif, voire en burn-out. Et qui déambulaient dans les couloirs comme des zombies totalement médicamentés. Donc l'idée, et peut-être c'est vous contribuez à ça par votre émission, c'est voilà, il y a un rôle préventif, c'est-à-dire refouler non, après les accepter et peut-être voilà déjà accepter qu'on est triste. C'est pas évident dans nos sociétés, il y a plein de choses un peu non grata, mais la simple acceptation est déjà une part de la solution.
Martin Legros, rédacteur en chef à Philosophie Magazine.
Oui, pour répondre à cette question, moi je dirais que en effet, on a tous peur d'exprimer nos émotions et peut-être que cette peur tient au fait que nous pensons que les émotions sont nous rabattons des émotions sur des sentiments, c'est-à-dire sur quelque chose qui nous serait totalement propre et imparable. partageable, c'est-à-dire quelque chose de totalement interne, totalement notre petit monde intérieur que l'autre ne peut pas comprendre. Or, je crois que si on comprend les émotions autrement, il y avait un philosophe allemand, Heidegger, qui disait, qui parlait plutôt que de parler d'émotions, il parlait de, en allemand on dit Stimmung, on traduit ça par la tonalité affective. Ça veut dire, tonalité, il y a une dimension musicale donc dans l'affect. Ça veut dire, il voulait dire par là que quand je suis triste, c'est pas uniquement un sentiment intérieur, c'est le monde qui se découvre dans ses dimensions tristes qui tout d'un coup surmontent ses couleurs, ses tons du monde tout d'un coup apparaissent tristes. Eh bien, je dirais à cette jeune fille qui a peur d'exprimer ses émotions, ce qu'elle doit peut-être se dire, c'est que l'émotion, c'est pas ce qui est le plus propre et qui est incommunicable. C'est peut-être une dimension qu'elle a perçue du monde et qu'elle peut peut-être en l'exprimant partager avec d'autres. Et donc faire non pas s'enfermer dans son intériorité, mais se dire que l'émotion, c'est ce qui nous met en relation avec le monde.
Il est ce que dessous.
Et je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Et j'ai envie de dire à cette auditrice, nous ne sommes pas nos émotions. Et quand on comprend ça, on s'accepte un petit peu plus facilement. Et j'ai envie aussi de lui dire, et si c'est peut-être son cas, si elle est hypersensible, en fait, elle est dotée à la base d'un pouvoir extraordinaire, un peu comme les héros dans Marvel, parce que cette hypersensibilité lui permet aussi de capter tout un tas de signaux faibles que le commun des mortels ne voit pas. Simplement, quand on est comme ça, Bob l'éponge, une éponge, et qu'on peut capter toutes ces informations, faut pas oublier qu'il y a un moment, pour pas atteindre le maximum de pouvoir de saturation de son éponge et donc peut-être subir des troubles psychosomatiques, il est essentiel aussi d'être capable d'essorer cette éponge pour filtrer le
trompe. Nina, pour aller dans votre sens, Christophe Hague nous dit « En tant qu'hypersensible, je ressens des émotions plus fortement que la majorité des gens. À 33 ans, j'apprends à les vivre, à les laisser passer, à ne pas les refouler en me jetant sur la nourriture ou la cigarette. J'apprends à ne pas m'identifier à ces sensations, pas toujours agréables, tremblements, rougissements, mal de ventre, nœuds dans le dos et le plexus, boules dans la gorge, larmes, anxiété. Cela peut se manifester par des émotions négatives, comme positive. Ilios Kotsou.
Alors j'aurais dit aussi, il y a une question d'alphabétisation au niveau des émotions, c'est qu'on a peur d'exprimer parce qu'on n'exprime pas des émotions. Souvent, on juge, on attaque et on n'a pas appris la différence entre le fait de dire ce qui se passe en nous, je ressens de la colère, de la tristesse, ou d'attaquer l'autre. Et donc quand on apprend tout simplement à mettre des mots, ça nous aide nous, ça aide les autres. Il y a un chercheur américain, James Pennebaker, qui a passé sa vie à montrer que simplement le fait d'écrire, soit la semaine, trois fois, pendant 15 minutes, sans se juger ce que l'on ressent, a un effet vraiment mesurable sur notre bien-être.
Si je peux me permettre, je conseillerais aux hypersensibles d'aller au cinéma. Non, parce que toutes ces émotions qu'éventuellement ils refoulent ou qu'ils jugent, ils ont l'impression d'être seuls au monde dans une salle de cinéma où l'émotion par définition est partagée, contagieuse, elle peut être vécue, toute honte bue. Et même on peut en sortir en se disant finalement j'ai le droit de pleurer dans telle situation puisque telle actrice sur l'écran a pleuré dans les mêmes situations que moi. Il y a quelque chose en fait aussi de l'autorisation à l'émotion quand on va au cinéma et on en sort plus autorisé.
Oui, c'est très juste. En réalité, l'émotion, ce n'est pas quelque chose uniquement que nous ressentons de manière instinctive, comme un cri. Nous avons un rapport avec notre émotion où nous percevons nos propres émotions. C'est-à-dire, en effet, elles surviennent très très rapidement, mais nous sommes capables de les regarder. Et non seulement de les regarder, mais du coup de les extérioriser. Et ce que vous venez de dire du cinéma est très juste, c'est ce que Aristote disait sur la catharsis. Nous allons voir une tragédie ou au cinéma pour éprouver sous le mode de la pitié ou de la crainte des émotions et par là même être capable de prendre distance par rapport à ces émotions.
Bonjour Pascal, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quelle est votre réaction à notre conversation ?
Eh bien, moi voilà, j'ai 57 ans et depuis toute petite, dès qu'il y a quelque chose de négatif qui m'est envoyé, je pleure. Alors, petite, c'était n'importe quoi. On faisait une réflexion, je pleurais. Un peu plus tard, à l'adolescence, ça a continué. Et à l'âge adulte, ça m'a poursuivi. Dans mon travail, quand on fait une réflexion désagréable, mon patron fait une réaction désagréable, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et je m'en veux, mais je ne sais pas quoi faire. C'est mon seul moyen de défense, en fait.
Christophe Hague, sur ce moyen de défense du pleur face à une émotion négative.
Alors moi, je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais ausculté à la loupe un grand patron du CAC 40, dont la particularité était, chaque fois qu'il avait un conseil d'administration, de pleurer. C'était quelqu'un d'extrêmement émotif. Et donc, il était dans un milieu où l'émotion est plutôt non grata. On est plutôt très analytique dans un CA d'un grand groupe du CAC 40. Eh bien, il a désamorcé très rapidement la chose en disant, bah, écoutez, voilà, ma mère était émotive. J'ai hérité de ça. C'est comme ça, voilà, ben, voilà, on va les laisser couler ses larmes et après, la discussion va commencer. Je peux vous assurer que ce patron, contrairement à beaucoup d'autres que j'ai eu la chance d'investiguer, on va dire, de décortiquer, et ben celui-ci bénéficiait d'un capital sympathie, bienveillance, même la tonalité de la voix lors des discussions du CA avait changé. Tout était beaucoup plus amical, tout était plus direct et tout était même plus authentique.
Ilios Kotsou, qu'est-ce qu'on peut répondre à Pascal ?
Alors, ce que je dirais à Pascal, c'est que ça ne doit pas être facile, bien évidemment, mais elle l'a dit, je m'en veux. Et j'ai l'impression qu'on peut être retourné, et plutôt que mettre son énergie sur ne plus pleurer, c'est mettre son énergie sur être à l'aise avec le fait de pleurer. Donc, quand on est à l'aise avec nos malaises, tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et étonnamment, les retours qu'on a des autres sont très différents. C'est souvent notre propre malaise par rapport aux émotions qui est difficile. Et donc, être à l'aise avec nos pleurs, on pleurera toujours, mais ça sera beaucoup plus facile.
A contrario, Pauline nous dit, je suis quelqu'un qui ne supporte pas les conflits, mais quand quelqu'un m'énerve, me déçoit ou m'insupporte, je prends sur moi, ou plutôt je garde en moi, et ça me ronge de l'intérieur, ça m'envahit, ça m'étouffe.
Alors là aussi, évidemment, il y a des conflits, c'est normal, il y a un message qui est clair pour notre auditrice qui est, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc il y a une information sur ses valeurs et ses priorités. Et la question, c'est pas tellement est-ce qu'elle doit l'exprimer ou pas, mais c'est qu'est-ce qu'elle fait de ça? Quel comportement elle va avoir qui va lui permettre d'incarner au présent ce qui est important pour elle? Parce qu'il est sûr, si elle ne fait rien, elle a comme une indication importante de déséquilibre en ce qui est important pour elle et l'environnement, et l'indication va continuer à monter, la pression montera tant qu'elle n'en fait rien.
Merci beaucoup Pascal de nous avoir appelé. Bonjour Michel, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Alors moi, je suis émotive. J'ai 74 ans. Je vais au cinéma avec mon petit-fils. Je regarde Blanche-Neige, Bambi, je pleure. Voilà. Mais par contre, ma question, c'est pas tout à fait celle-là. Je suis très contente d'être émotive, en plus, parce que ça me vient c'est instinctif et je trouve pas ça désagréable. Voilà. Mais par contre, ce qui me gêne énormément, c'est de m'apercevoir dans le temps que les émotions qu'on peut avoir quand on voit certaines catastrophes, comme moi je me rappelle sur Paris il y a des dizaines d'années quand il y avait un SDF qui mourait, ben tout le monde avait quand même ce sentiment de tristesse,
d'empathie
et des larmes aux yeux. Maintenant il y en a 20, on s'en fout. Vous prenez les enfants par exemple qui meurent actuellement dans la mer, sur les plages, et je trouve que au niveau même des politiques, il n'y a plus d'émotion.
Très juste
ça
remarque.
Tout seul à partir du moment où le nombre a augmenté.
Très juste.
Constatation, elle est peut-être fausse.
Non, très juste remarque, Michel. Christophe Hague.
Ben, vous décrivez, en fait, dans le bouquin, je me suis intéressé à un phénomène global qui reprend ça, cette forme d'indifférence, ce narcissisme poussé à l'excès, cet égocentrisme. Et moi, j'appelle ça le hum émotionnel négatif.
C'est-à-dire
H-U-M, alors je sais pas si vous avez entendu parler de ce mot, mais hum, c'est un bourdonnement sourd qu'on entend ici et là sur cette petite boule bleue et qui est interprété par tout un tas de catastrophistes comme la fin des temps. On vous dit, bah tiens, à force de taper dans les ressources de la Terre, de la maltraiter, et ben à un moment elle se rebiffe. Et moi j'ai juste transposé cette notion de homme de manière un peu plus psychologique. Et effectivement, depuis à peu près une dizaine d'années, on observe que le négatif, le toxique, l'a emporté. D'autant plus que les émotions toxiques, dysfonctionnelles, inadaptées, etc., sont beaucoup plus contagieuses que les positives. Vous avez un célèbre psychologue qui disait la chose suivante. Il disait le cerveau humain, il agit sur les expériences négatives comme du velcro et sur les expériences positives comme du téflon. Je crois qu'il a tout dit en disant ça. Donc effectivement, ce négatif-là fait aussi qu'on génère des formes d'angoisse, de peur, on se replie sur soi-même et on voit un peu moins la souffrance du voisin.
Ilios Kotsou.
Évidemment, nos émotions sont partagées, donc c'est une des caractéristiques des émotions, c'est qu'elles sont très très rapidement partagées. Et un chercheur belge, Bernard Rimé, qui est le grand spécialiste, a montré que dans 90% des cas, l'émotion est partagée, à un point où une étude a montré que 33 étudiants qui avaient vécu une émotion. En quelques jours, 900 personnes en avaient entendu parler. Donc, elle est contagieuse, elle est partagée, et elle participe à notre identité collective. Alors, la question ici, c'est quelle émotion? Évidemment, je pense pas qu'il y ait moins d'émotions aujourd'hui, comme vous l'avez dit, mais c'est qu'il y a plus d'émotions difficiles comme la peur, et que nos politiques sont aussi, il y a une responsabilité là-dedans de qu'est-ce qu'on en fait. Parce que la peur, un exemple anecdotique, mais on a pu montrer qu'il y avait un lien entre la peur des infections et nos attitudes par rapport aux réfugiés. Et donc, quand on mobilise beaucoup d'émotions reliées à la peur, on va amener des populations à avoir des comportements de stigmatisation, donc de repousser les personnes considérées comme étant du groupe extérieur, plutôt que des émotions qui nous permettent de nous considérer tous ensemble comme cette grande famille humaine ou même de terrestre qui est sur le même bateau.
Merci beaucoup Michel de nous avoir appelé. Alors, les recherches du psychologue américain Paul Ekman, hein, qui nous dit qu'il existe 6 émotions de base, sont-elles toujours d'actualité? Les 6 émotions de base, c'est la peur, la joie, la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse. Il y a ce qu'au-dessous.
Ouais, alors il y a d'énormes discussions, évidemment, comme toujours dans ces champs, ils ne sont pas unifiés. Et en même temps, je pense que Paul Ekman est un des grands psychologues qui a pu montrer que même, comme vous l'avez dit, si les émotions, les raisons d'avoir une émotion diffèrent. Quelque chose peut nous rendre joyeux ici et rendre quelqu'un d'une autre culture triste, mais en même temps, l'expression faciale des émotions est la même chez l'homme et l'animal. Et ce qui est surtout intéressant aujourd'hui, c'est que la frontière qu'on pensait avoir entre nous et les animaux est complètement effacée. Et qu'on voit des émotions complexes comme la gratitude chez les chimpanzés. On voit des émotions comme la culpabilité chez un chien. Mais donc c'est aussi un problème parce que si les animaux ont non seulement des émotions, peut-être des sentiments, et que les émotions sont sensibles et intelligents, alors ça nous interpelle, comment traitons-nous aujourd'hui les animaux?
Martin Legros.
Oui, c'est fascinant, on a même pu montrer que les singes avaient des sentiments moraux, c'est-à-dire que devant des injustices, ils montraient l'expression de leur rage et de leur fureur quand ils se sentaient lésés. Mais dans le texte de Darwin, l'expression des émotions, j'ai découvert une chose incroyable, c'est que Darwin explique que, ce que je ne savais pas, les chiens, avant la domestication, n'aboyaient pas. Et c'est au contact des hommes, donc du langage, que les chiens se sont mis à aboyer. Et, attendez, encore plus subtil, les loups voyant les chiens se mettre à aboyer, ont appris par imitation à aboyer. Ils n'aboyaient pas au départ, nous dit Darwin. Alors, je trouve ça assez étonnant, cette idée, en effet, d'abord d'une sorte de contagion, mais d'une contagion au sens de « ils s'expriment, donc je vais essayer moi aussi de m'exprimer », et en effet, ça franchit les limites de l'humanité et de l'animalité. Cela étant, ce que dit aussi Darwin, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une expression peut-être un peu spécifique des émotions chez l'homme. Darwin dit « Les hommes reconnaissent immédiatement certaines émotions, signe sans doute qu'ils ont un ancêtre commun et qu'il n'y a qu'une seule espèce. » C'est un argument contre toute forme de racisme déjà. Mais surtout qu'il y a une expression, des expressions spécifiquement humaines, éminemment humaines. Il parle du fait notamment de la du fait de rougir de honte, etc. Je ne sais pas si ces études sont confirmées, mais je trouve intéressant qu'il y a un continuum et des expressions qui sont éminemment humaines.
Oui, on pourrait se dire aussi qu'on peut trouver un sourire chez les chimpanzés et que les études, elles sont, il n'y a pas assez d'études.
Ça, Darwin le dit aussi, hein.
Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est rendu compte seulement récemment que les chimpanzés réagissaient aux expressions faciales? C'est qu'on montrait aux chimpanzés des visages d'humains au lieu de montrer des visages de chimpanzés. Alors évidemment, le chimpanzé est beaucoup plus intéressé par un visage de chimpanzé. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas compris qu'un éléphant pouvait se rendre compte, pouvait se reconnaître? C'est qu'on montrait à l'éléphant, on lui présentait un miroir de la taille d'un être humain et qu'on oubliait qu'un éléphant avait besoin d'un miroir de la taille d'un éléphant. Et donc notre anthropocentrisme réduit nous a amené bien souvent à déconsidérer d'autres espèces et la sensibilité d'espèces, pas seulement les animaux, mais de tout le vivant, ce qu'on se rend compte aujourd'hui.
Guy Métodicino.
Pardon, ça n'a vraiment rien à voir avec les chimpanzés. Moi, je pense aux acteurs, là. Non, parce que vous, ces émotions qu'on reconnaît sur le visage et que donc on reconnaît universellement, moi, ça me fait évidemment penser à comment on incarne des émotions à l'écran, enfin, et comment on les, et à un point même d'incarnation absolue, c'est-à-dire de ressentir soi-même une émotion. Je pense à un film, c'est Après vous de Pierre Salvadori, où il y a un personnage incarné par Sandrine Kiberlain qui est une jeune femme qui rougit à la moindre émotion. Eh bien, si on regarde le film, Sandrine Kiberlain, à un moment, devant un ascenseur, parce que Daniel Auteuil la drague, rougit. En vrai, elle a des plaques partout sur son magnifique décolleté. On se dit, mais comment elle est capable de faire ça? Parce qu'en fait, elle va évidemment plongée dans ses propres émotions. Je ne sais pas à quoi pense Sandrine Kiberlain à ce moment-là pour se forcer à rougir, mais ça provoque ça. Et évidemment, c'est la méthode, M majuscule. Mais évidemment, on pense à Stanislavski. Alors, c'est c'est ce grand professeur de dramatique russe qui a inventé la méthode, qui après a été reprise avec grand succès par Lee Strasberg dans l'Acteur Studio. Ça nous a quand même formé les Marlon Brando, les Paul Newman, les Robert De Niro, les Al Pacino, donc tout va bien. Mais ce qui est dingue, c'est que Stanislavski, pour en fait retrouver un vrai naturalisme dans le jeu des comédiens, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit « il y en a marre de la raison ». On ne peut pas jouer, un comédien ne peut pas jouer avec sa raison. Et il s'est tout bêtement inspiré de Freud. Et il a dit qu'un comédien devait jouer avec ses émotions et retrouver ses propres émotions pour pouvoir les communiquer sur un écran.
C'est bien, Guy Matodicino, vous avez compris qu'il est interdit dans cette émission de dire du mal de Sandrine Kiberlin.
Ah ben, voilà. Loin de moi.
Je suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures. Dans simulateur, près des couleurs, trop sable en mouvement. Foncez, trop près, c'est de plus penser. Cerveau dansé, donc elle est branchée. Sans te défoncer, plus rien de sensé. Sors de ma tête, de bouger, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de tes questions brusques, beaucoup de pression. Muscle, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, bac. Oppression à ta restriction, blague. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le ping. Je te demande un minimum de respect. Je vois BER, tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, j'en vais BER, tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro. Une miche dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, hier. J'écris sur tout ce que je pense, et j'écris sur tout et son corps, hier. Mais sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, dans mon douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis. T'aimes la vie quand tu me suis. Tu comptes sur mes économies. T'es ma p*** pour aujourd'hui. Tapis, j'ai fait doubler la mise, père. Bientôt j'abandonne le vice, de pas loin. J'prends vice de mer. J'calme mes nerfs, j'vois BER, tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, j'en vais ER, tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro.
Venez d'écouter Damso, Morose.
Oh, bah dis donc ma Georgette, là, t'es tendue. T'es tendue, tendue.
Ouais. Grand bien vous fasse.
Tendu dedans, détendu dehors. Répète.
Tendu dedans, détendu dehors.
Attention, ne pas m'énerver, hein, parce que quand je m'énerve, c'est pas bon à moi, croyez-moi. Hein.
Sur France Inter.
Que faire de nos émotions? C'est la question que nous posons avec le mensuel Philosophie Magazine. Christophe Hagg, je rappelle que vous êtes chercheur en psychologie sociale. Pourquoi parlez-vous de contagion émotionnelle dans votre livre? Et vous dites que l'émotion, c'est le virus le plus contagieux au monde. Parler de contagion, ça peut être un peu anxiogène, non?
Oui, alors je m'excuse auprès de vos auditeurs pour ça. Mais en fait, c'est simplement pour montrer que les émotions, effectivement, peuvent se transmettre, qu'elles soient bénéfiques ou toxiques, d'une personne à une autre. Très rapidement, on l'a déjà dit, juste pour avoir un ordre d'idée, quand je vous parle de 21 millièmes de seconde avant le temps de transmission, il fallait à Cassius Clay, Mohamed Ali, 230 millièmes de seconde pour repérer et réagir à un signal lumineux par un uppercut. Donc c'est 10 fois moins de temps que ça. Après, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce bouquin, c'est d'aller voir en fait des personnes qui ont vécu des situations extrêmes. Parce que dans ces situations extrêmes, en fait, tous ces phénomènes émotionnels sont beaucoup plus visibles, palpables. C'est pour ça que je suis allé voir des survivants haute altitude, des rescapés, des miraculés de ce crash dans les années 70 dans la cordillère des Andes, des astronautes, des membres du RAID, des avocats pénalistes. Parce que je suis intimement convaincu en tant que chercheur que c'est en étudiant la nuit qu'on comprend le jour. Donc je pense qu'avoir une conversation avec quelqu'un qui a une posture ou une personnalité frankensteinesque va plus nous apprendre sur le genre humain qu'avec quelqu'un qui est plutôt psychiquement équilibré. Et donc je me suis intéressé aussi beaucoup aux émotions toxiques qui baignent un peu dans ce grand hum émotionnel négatif et dans lequel bah voilà, on s'imprègne de plein de choses. Et l'idée c'était de dire bah voilà, quels sont aussi peut-être aujourd'hui les façon de penser, les états d'esprit et les outils aussi pour à un moment décrotter ces émotions toxiques. Et dans le livre, effectivement, on propose, et j'ai travaillé avec une collègue à Louvain, Moira Mikolasek, des sas de décontagion émotionnelle, que ce soit contaminé par des émotions toxiques dans le cadre d'un couple ou alors dans le cadre d'un groupe, en entreprise, etc. Donc on propose comme ça des protocoles step by step qui sont assez faciles à réaliser chez soi au boulot ou ailleurs.
Un exemple peut-être, comment fonctionne ce sas de décontagion ? Tiens, je prends un exemple. Hier, il y a un humoriste qui me racontait qu'il avait rencontré sur un plateau télé une réalisatrice de fiction télé qui a pris plaisir à humilier, rabaisser les techniciens, la présentatrice, le chroniqueur, avec des remarques déplacées, désobligeantes, blessantes. On rentre chez soi, on est mal, hein, avec ses proches, on se sent éclaboussé par ces paroles néfastes, des paroles toxiques qui peuvent avoir un effet durable. Comment on se décontamine ?
L'une des premières choses, je pense, à réaliser, c'est de se dire que cette émotion, elle vous appartient pas, c'est pas la vôtre. Et beaucoup d'entre nous, ben finalement, on va porter les émotions d'autrui, que ce soit notre conjoint qui a beaucoup de soucis, etc. On les porte comme si c'était réellement les siennes. C'est bien dans un premier temps, mais après, si ça devient long-termiste, si c'est quelque chose qu'on porte comme ça dans le temps, eh bien ça devient un vrai fardeau. Donc déjà se dire, ben, cette émotion, c'est elle qui était agressive, c'est elle qui avait affiché ce comportement toxique, c'est pas le mien. J'ai honte pour elle, j'ai pas honte pour moi. Le simple fait de se dire ça permet d'évacuer, de décadenasser ce type de situation. À nouveau, je reviens aussi sur ce que je disais au début, nous ne sommes pas les émotions aussi qu'on ressent tout le temps.
Et ensuite, dans votre sas de décontagion, qu'est-ce qui se passe dans ce processus ?
Alors, j'allais dire, bon, faut lire le livre, parce qu'après, c'est un peu détaillé. Mais j'ai peut-être envie de donner un outil très simple à vos auditeurs. Il n'y a pas de pub, on l'a fait de manière totalement philanthropique, ce qui est un peu bizarre quand on est chercheur dans une business school. Et on l'a réalisé aussi avec cette chercheuse dont je vous donnais le nom précédemment. C'est une app qui est gratuite, qui est sur smartphone.
Une application.
Une application, et qui s'appelle Docteur DR Mood, M-O-O-D, comme l'humeur. Et en fait, que fait Dr Mood ? Pour moi, c'est une application éphémère. C'est-à-dire faut pas en être dépendant, faut juste l'utiliser quelques mois. Et cette application, elle a le mérite, finalement, de labelliser l'émotion que vous ressentez à un instant T. De dire quels sont les bienfaits et peut-être les inconvénients à ressentir ce type d'émotion. Donc, vous allez grossir votre compréhension de l'émotion. Et derrière, d'apporter peut-être des outils, des manières de faire pour s'en détacher si nécessaire.
Ilias Kotsou, chercheur en psychologie.
Moi, ce qui me semble essentiel dans l'exemple que vous donnez par rapport à l'injustice, c'est que l'émotion nous donne un signal important, dire la justice est importante pour moi. Et c'est se dire que me dit l'émotion et là qu'est-ce que je vais faire. Et je pense que la personne qui était témoin, ce qu'elle a tout intérêt à faire, c'est à se comporter directement de manière juste, généreuse, et donc elle va mettre en place l'antidote qui est l'émotion positive. Il y a une étude au sortir des attentats du 11 septembre qui a montré que les personnes qui pendant les attentats avaient cultivé des émotions positives et donc pas nié, elles avaient vécu de la peur mais aussi de la générosité, de l'altruisme et de la gratitude, étaient beaucoup mieux remises après et avaient eu des comportements beaucoup plus justes. Et je pense que là est le message. Qu'est-ce qu'une émotion me dit ? Derrière chaque non, il y a un oui. Cultivons le oui, mettons notre énergie dans ce qui est important pour nous, ne restons pas attachés seulement à ce qui est difficile.
Martin Legros, certaines émotions nous construisent. Vous avez demandé à plusieurs philosophes quelles sont les émotions qu'ils avaient construites. Je pense à l'humiliation. C'est ce que vous dit la chercheuse Gloria Origi. C'est une émotion qu'il a construite. L'humiliation qui est une émotion fondamentale et qui en fait naître beaucoup d'autres, comme la colère, le ressentiment ou bien la honte.
Oui, Gloria Urgi a d'ailleurs vient de diriger un dictionnaire des passions sociales en montrant très précisément que la vie sociale aujourd'hui est nourrie par des émotions. Vous parlez de l'indignation, elle est au cœur de la cité aujourd'hui. On s'indigne, peut-être à défaut de pouvoir agir, on s'indigne. Et c'est une chercheuse italienne, donc qui est très brillante, mais qui se voit toujours ramenée à son accent italien, et elle le vit en effet sous une forme d'humiliation. Et donc elle-même travaille là-dessus. Oui, moi, ce que je dirais sur l'exemple que vous avez donné, il y a l'émotion, c'est trois choses. C'est une information, en effet, on l'a dit. C'est aussi une expérience du monde, et c'est un lien avec l'autre. Et je dirais que, en tant qu'information, il faut l'écouter. En tant que expérience riche du monde, il faut la cultiver. Et en tant que lien avec l'autre, il faut la partager.
Bonjour Élise, bienvenue.
Oui, bonjour. Merci pour mon appel.
Avec plaisir, Élise. Dites-nous tout.
Écoutez, moi j'entends tout ce que vos invités disent, mais ce que je retiens surtout et qui me parle, c'est qu'une émotion, c'est en un millième de seconde, et que on la contrôle pas. Et alors pendant longtemps, moi j'ai fait partie de la catégorie qui prenait sur soi, qui réprimait, etc. Mais alors maintenant que ça s'exprime, eh ben c'est très violent en fait. C'est-à-dire que avec mon compagnon, quand lui justement n'exprime pas sa tristesse ou l'exprime de manière qui lui fait encore plus de mal puisqu'il a des problèmes d'addiction, eh ben il se comporte d'une manière qui moi me met en colère. Mais en fait au fond je suis pas en colère, je suis triste. Ça j'arrive à l'identifier, mais toujours quelques secondes après, parce que le millième de seconde où l'émotion s'exprime, très souvent, depuis quelques temps, je suis violente physiquement envers lui et envers moi-même, et c'est un vrai problème. J'ai suivi une psychothérapie, ça ne m'aide pas, et je cherche désespérément la solution, parce que lui, c'est exactement l'inverse, il n'exprime pas du tout ses émotions, ou alors, par ses problèmes d'addiction, ou par la provocation envers moi, il me cherche. Et malheureusement, il me trouve, alors que pendant des mois, il m'a pas trouvé. Et du coup, le millième de seconde, là, moi, je sais exactement ce que c'est, parce que ça part tout seul. Mon cerveau ne contrôle rien. Mon corps parle tout seul, quoi.
Qui veut répondre à Élise?
Soit par des pleurs, soit par des coups.
Ilios Kotsou, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Élise?
Je répondrai à Élise déjà que si c'était si facile, elle l'aurait trouvé depuis longtemps, donc on n'a pas de leçon à donner.
Bien sûr.
Ceci dit, je pense que l'émotion, bien souvent dans une situation qui est bloquée comme celle-là, elle a une raison d'être, c'est que si la situation est menaçante et si elle est contraire aux valeurs, c'est normal que la colère soit toujours là. Et quand Élise disait que son compagnon exprime ses émotions par l'addiction, on peut le voir de plein de manières, on peut aussi le voir un tout petit peu différemment, qui est justement, dans nos addictions, c'est un moyen d'éviter des situations difficiles qui sont en nous. Et je pense que là, il y a un travail à faire et que nous, on ne peut pas le faire à la place des autres. On peut les aider, on peut les écouter, mais c'est à chacun de suivre son chemin. Mais que chez elle, apparemment, il y a quand même un signe profond d'un inconfort dans une situation et qu'elle doit peut-être écouter. Et en même temps, je pense, comme elle le dit, dans ces situations, c'est très important d'être accompagné. Peut-être trouver une autre personne, parce que évidemment, c'est pas moi ou qui que ce soit ici à la radio qui vont pouvoir donner une réponse à quelque chose d'aussi profond.
Christophe Hag.
Et alors, ce que je vais dire, je veux pas du tout que ce soit entendu comme quelque chose de brutal, mais c'est le conseil que je peux donner, par exemple, à des étudiants que je suis, qui vont faire des métiers où ils sont extrêmement corvéables, où ils ont des ressentis plutôt négatifs à longueur de journée. Ils sont kalachnikovés de ça non-stop, ce qui crée des méta-états affectifs qui les rongent vraiment de l'intérieur. J'ai envie de dire une chose toute simple, c'est dire quand la situation aussi se prolonge durablement, qu'on est systématiquement impacté par ce type d'émotion-là, et comme le disait Ilios, à un moment, c'est qu'il y a un message fort, et ce message, faut peut-être aussi l'entendre. Et je suis pas en train de dire qu'il faut se séparer ou quoi, mais le conseil que je donne à mes étudiants, c'est soit vous essayez de changer quelque chose en interne, et si ça marche pas, ben à un moment, sauvez-vous psychiquement. Écartez-vous de ce contexte-là qui est extrêmement malsain pour vous, qui vous crée des troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles de tout ce que vous voulez, qui peut vous mettre en danger, qui va attaquer votre système immunitaire, etc.
Merci beaucoup, Élise, d'avoir témoigné ce matin. Émilie, maman d'un petit garçon de 7 ans, nous dit « Mon fils surréagit devant les films. Il pleure, il a peur, il rigole, un peu comme Guillaume Todisino. J'ai fait de grosses crises d'angoisse quand j'étais enceinte de lui. Il y a également suspicion d'hyperactivité. Est-ce que ça peut être lié, Ilios Kotsou? Qu'est-ce qu'on sait
C'est très difficile à dire. En même temps, je pense que pour des enfants, le cerveau émotionnel n'est mature pardon, les zones préfrontales qui régulent les émotions ne sont matures que vers 23 ans, et donc il est tout à fait naturel que nos enfants aient des émotions qui sont parfois plus importantes. Il y a énormément de différences individuelles, donc je pense que plutôt que s'inquiéter, parfois c'est important juste d'apprivoiser, de faire de la place, et peut-être d'aller voir quelqu'un si c'est nécessaire.
Martin Legros.
Oui, juste une chose sur ce point, il y a un très beau texte de Sartre qui raconte, qui dit que les émotions c'est un comportement magique, et je trouve que c'est très juste pour les enfants, on croit qu'ils sont en proie à des terreurs, etc. L'enfant qui, face à un devoir, c'est l'exemple que prend Sartre, face à un devoir de mathématiques, déchire sa feuille de colère. En réalité, c'est une solution magique. Il se dit que l'émotion est une manière de résoudre le problème en l'effaçant. Eh bien, les enfants utilisent souvent les émotions comme des comportements magiques. Ce sont des grands acteurs, en réalité.
Guillemette Odissino.
Ben, je pense que cette maman, effectivement, si après ça devient préoccupant, mais elle pourrait en profiter pour discuter avec son petit garçon de ce qu'il ressent et des émotions. Et il va peut-être, justement, lui, être précoce pour essayer de les apprivoiser.
Merci à tous d'être venus. Merci Ilios Kotsou, Christophe Hag et Martin Legros. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli et sur le site de France Inter. Demain, pourquoi la nostalgie nous fait-elle du bien ?